mais c'est des ressources que tu mets pas ailleurs. On leur a permis à ces intégristes-là de s'établir à Hébron. Résultat, Hébron aujourd'hui, c'est une ville qui est pleine de cicatrices, de tensions, de haine. Je vous parle d'Hébron aujourd'hui parce que aujourd'hui, pas très loin, en banlieue d'Hébron, il y a des colons israéliens, des ultranationalistes, des intégristes, qui ont arrêté des camions pleins de vivres qui partaient de la Cisjordanie occupée à destination de Gaza. Il y avait de la bouffe, il y avait du matériel médical. Ils ont détruit les marchandises. Jusqu'à maintenant, ces gens-là se contentaient de bloquer les camions. Là, on a saccagé la marchandise. Les images sont absolument ahurissantes. Ça donne mal au cœur. Donc, Israël a raison de décrire le Hamas comme un obstacle à la paix. Mais Israël a aussi ses intégristes, ses fanatiques. Et on en parle beaucoup moins quand on parle des obstacles à la paix. Donc, les Palestiniens, oui, ont leurs fanatiques. Par exemple, les gens du Hamas, on peut pas le nier, mais les Palestiniens vivent un lent déracinement, une occupation qui est déshumanisante en Cisjordanie. On leur vole leur terre, leur dignité, à cause de la colonisation. Ça fait partie du conflit. Et je pense qu'il faut des fois le rappeler. Et c'est un peu pour ça aussi qu'il y a des mouvements de dénonciation de ce qui se passe à Gaza un peu partout dans le monde. Parfait. Un peu plus près de nous. On va parler d'itinérance parce que il y avait une chronique aujourd'hui dans la presse de Maxime Bergeron qui parlait d'une femme qui a vécu l'itinérance, qui est tombée dans l'itinérance. Et ce que Maxime fait, c'est qu'il humanise cette femme-là. Il montre aussi comment elle s'est sortie de la rue. Mais ce que l'histoire de cette femme-là montre, c'est que c'est facile de perdre pied dans la vie et de se ramasser à la rue. Ça arrive vite, la rue, quand ça va pas bien dans votre vie. Et il y a un outil crucial qui a ramené cette femme-là, là, qui a été interviewée par Maxime Bergeron, dans le grand canot de la vie. Elle a eu accès à un logement peu dispendieux pour se reprendre en main. Si tu veux arrêter l'alcool, la drogue, et souvent, on le sait, là, ça vient main dans la main avec l'itinérance, puis que tu vis dans une tente, ben ça se peut que tu n'aies jamais les conditions pour remonter dans le canot. Et je suis pas certain que la politique de tolérance extrême qu'on voit un peu partout le face à l'itinérance et à la consommation soit une bonne façon d'aider les itinérants qui consomment. Vancouver se pose des questions sur la tolérance à tout vent. San Francisco aussi. Portland en Oregon, même chose. Et on peut se poser ces questions-là. À ce micro, je dénonce souvent ça. Mais quand on parle d'itinérance, qu'importe c'est quoi le point de vue qu'on a, faut aussi parler de la disponibilité de logements qui sont abordables, je le disais, et qui viennent rapidement quand quelqu'un lève la main pour avoir de l'aide. Et la chronique de Maxime Bergeron le montre, il faut des alternatives à la rue. Donc, c'est à lire aujourd'hui dans la presse. On va parler aussi du procès de M. Trump parce que on entre dans la phase finale. Là, c'est son ancien avocat et homme à tout régler. Parce qu'il y a des hommes à tout faire. Hein. Des fois, on embauche des hommes à tout faire pour installer des lumières pour peinturer à la maison. Mais il y a aussi, pour des hommes comme Trump, ce qu'on appelle en anglais des fixers, comme Michael Cohen, un homme à tout régler. Tous les problèmes de Trump passaient par Michael Cohen, comme payer une star du porno qui voulait parler publiquement de sa relation avec le boss. Et aujourd'hui, Michael Cohen a commencé son témoignage. Ça va être un témoignage choc, mais c'est pas un témoin parfait. Il a déjà menti sous serment. Il a commis des crimes pour M. Trump. Et évidemment, ben, la défense va le dépeindre comme quelqu'un qui n'est pas fiable. On va en parler avec Mme Beaudoin à 17h40. Vous dire aussi que Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, va se joindre à nous à 17h05. On va parler du scandale Arrive Cannes. Donc, tout ça à 17h05. Aussi, des chiens sur des terrasses. Quand vous allez manger sur une terrasse, prendre un verre, est-ce que ça vous tenterait de manger à côté d'un client qui a traîné Pitou, que ce soit un petit chien comme celui de Mme Beauchamp ou un gros Doberman, comme on peut en retrouver dans les rues de la ville? Est-ce que ça vous tente? Je ne sais pas. Moi, ça me tente pas tant que ça, mais il y a des restaurateurs qui veulent pouvoir accueillir le meilleur ami de l'homme. Écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez. 98985, on va en parler un peu plus tard à l'émission 15-19. Salut Philo.
Salut Pat.
Donc ça brasse dans les séries de la LNH.
Ouais, je voulais te parler de deux gestes principalement qui ont eu lieu dans les matchs d'hier soir. Premièrement, Carson Soucy, je sais pas si tu as vu la séquence après la fin du match, tout juste après le sifflet final, les Oilers d'Edmonton qui se sont inclinés face aux Coyotes et aux Canucks, pardon. Et derrière le filet, il y avait un petit peu de brasse camarade et ben Connor McDavid, le meilleur joueur de la Ligue nationale, qui débute un peu tout ça avec un coup de bâton, mais s'ensuit un double échec en plein visage de la part de Carson Soucy. On lui a donné 2 minutes pour double échec, mais premièrement, le match est terminé. Deuxièmement, je veux dire, un double échec en plein visage, tu donnes 2 minutes. Et pendant ce temps-là, il recevait un autre double échec dans le dos de la part de Nikita Zadorov. Ben, Zadorov a été mis à l'amende pour 5 000 $, mais dans le cas de Soucy, ben, il devra s'expliquer au préfet de discipline. Mais bon, on sait pas s'il sera suspendu ou pas, mais...
Fait que ce que tu me dis, c'est que McDavid, un des meilleurs joueurs de la Ligue, coup sur coup, dans la même séquence, oui. Cross-check dans la face, cross-check dans le dos.
Oui, exactement. Puis probablement que le double échec au visage arrive parce que il recevait en même temps un coup dans le dos. Donc, son visage, bon, disons qu'il s'affaissait, le haut du corps s'affaissait lorsqu'il a reçu ce double échec-là. Mais peu importe, le match était terminé. Tu sais, il n'y a pas de raison de voir des gestes comme ça, surtout pas auprès des meilleurs joueurs. L'autre est survenu dans le match entre les Bruins et les Panthers. Sur le but de la victoire, Sam Bennett frappe Charlie Coyle, qui est un défenseur des Bruins, directement dans son propre gardien, Jeremy Swayman. Donc Swayman, c'est-à-dire Coyle tombe sur Swayman. Swayman ne peut pas faire l'arrêt et Bennett en profite pour marquer. Les arbitres sont allés à la reprise vidéo, ont décidé que le but allait quand même compter. Je ne sais pas si vous avez vu circuler les images de Jim Montgomery, l'entraîneur des Bruins de Boston, qui crie après les arbitres.
Il a l'air de leur crier après en français, d'ailleurs.
Exactement. Il a pas oublié, tu sais, c'est un gars qui a grandi à Montréal, je crois, dans le coin de Saint-Léonard et tout ça. Il est parti, ça fait quand même bien longtemps. Mais il y avait 2 arbitres québécois sur la glace, puis il a passé son message en français.
Et si ma lecture des lèvres est bonne, Philo, ça veut dire, mangez donc de la MARDE.
Exactement. Donc, c'était assez drôle comme situation. Reste que les Bruins se sont fait avoir là-dedans. Et Sam Bennett, c'est le même joueur qui a sorti Brad Marchand de cette série, lui infligeant une commotion cérébrale lors du dernier match avec un coup de poing directement à la tête qui n'a, bon, soit dit en passant, pas été vu encore une fois par les arbitres.
Sinon, Philo, beau week-end de soccer.
Oui, exactement. Avec le passage de Lionel Messi, ça a commencé vendredi soir, alors qu'on a vu, bien sûr, des centaines de partisans qui se sont retrouvés à l'extérieur de l'hôtel Le Ritz-Carlton sur Sherbrooke pour accueillir la vedette Lionel Messi. Mais bon, il est sorti de l'autobus et s'est dirigé directement à l'intérieur de la réception. Et écoute, les gens l'ont vu, ceux qui l'ont vu, pendant quoi? 2-3 secondes approximativement. Reste que les images ont fait le tour des médias sociaux. Et samedi, ben l'autobus de l'Inter Miami qui a eu besoin d'escorte policière pour se rendre jusqu'au stade parce qu'il y avait des milliers de personnes au coin Sherbrooke et Viau qui attendaient l'arrivée de l'autobus.
C'est impressionnant de voir ça. Très impressionnant, franchement.
Ben oui, définitivement.
Ça met du fun dans la place. Sinon, il y a une banderole qui a été déployée par les fans du CF Montréal au stade Saputo qui a été confisquée, Philo.
Oui, exactement. La banderole... qu'on avait déroulé et qui indiquait « Les partisans méritent mieux ». Ce message-là, c'est une citation de Joey Saputo d'il y a plusieurs années sur Twitter. Ça a été d'ailleurs son dernier tweet à vie, alors qu'il disait que des choses devaient changer à l'intérieur de son organisation parce que les partisans méritaient mieux. Donc, c'était leur façon de dire que finalement, il n'y a rien qui a changé depuis cette époque-là. Mais des amateurs qui étaient présents ont indiqué sur les médias sociaux que des agents de sécurité se sont occupés de faire disparaître la dite banderole. Et soit dit en passant, Joey Saputo était dans le stade pour cette rencontre, une des rares fois cette saison, puisque malheureusement, là, plus souvent qu'autrement, il est en Italie. Et je conclue tout ça en vous disant que Félix Auger-Aliassime s'est incliné aujourd'hui à Rome face à l'Australien Alex Deminor.
Philo, merci. Il y aura d'autres manchettes sportives dans le début du 16h. Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
OK, merci d'être là. Vous pouvez m'écrire au 98985. Beau phénomène qu'on a vécu vendredi dernier. On a vu des aurores boréales. C'est assez, disons, rare sous nos latitudes. On va décortiquer tout ça avec Marie Evenot, astrophysicienne à l'Université de Montréal.
La chronique mi-chaud, mi-froid, une présentation de Point S Garage Martin-Roy de Sainte-Luce.
Novarium, c'est un projet qui a été développé pour rendre Rimouski innovante et aussi la positionner dans les recherches de la mer, sciences, ouais. Les sciences de la mer. Alors, il y avait un président directeur général qui était là, qui avait le mandat de gérer les deux. Et il y avait une certaine latitude pour gérer des sommes. Et il y a un déplacement de sommes qui s'est fait vers Novarium que la ville essaie d'expliquer et peut-être, évidemment, de récupérer. Ben, la personne irait, louerait les espaces, utiliserait ça pour faire ses recherches, puis tout ça, pour essayer de les transférer en appliqué. Ouais. On appelle ça de la recherche appliquée, c'est-à-dire que ça serve à quelque chose, oui, au bout de l'année. Un petit salmigondi ce matin. Oui. Deux ou trois sujets.
Un melting pot.
Un melting pot en anglais. Fait qu'on a fait, ouais, les deux. On a été bilingual, là, c'est correct. On a respecté l'esprit du, ouais, fédéralisme canadien.
Du lundi au vendredi à 8h15,
Saint-Charles-Garnier, pour certains, c'est loin. Mais pour avoir du plaisir, c'est proche. Du 24 au 26 mai, on va en avoir du plaisir au premier festival Énergie et Culture. Vous vous intéressez aux énergies alternatives? Vous avez des besoins pour alimenter une propriété isolée ou vous voulez tout simplement économiser sur votre facture d'électricité? Venez voir nos exposants au festival. De plus, un spectacle hommage à Johnny Cash le vendredi soir avec Tennessee Two et samedi, un hommage à Guns N' Roses tout féminin avec Garden of Roses. Info et réservation au 775-4205.
Le dimanche 26 mai prochain, des dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes marcheront afin de soutenir les personnes atteintes de la sclérose en plaques. En vous inscrivant à la marche SP et en collectant des fonds, vous offrez votre appui aux personnes atteintes et contribuez à leur assurer une meilleure qualité de vie. Inscription à marchesp.ca ou sur place dès 8h. La cérémonie d'ouverture est à 9h et le départ est à 10h. C'est un rendez-vous le 26 mai prochain au Parc au séjour de Rimouski pour une journée plaisante avec nos présidents d'honneur Pierre Chassé et Jean-Maxime Mercier.
Dégâts d'eau ou de feu pour tout nettoyer. Calinex, pour tout décontaminer. On peut chiffier. Calinex, on est partout au Québec. 24/7, Calinex. Dégâts d'eau ou de feu pour tout nettoyer, décontaminer.
Le restaurant Union Pacifique a du nouveau pour vous. Besoin de solutions pratiques pour vos repas? Optez pour nos boîtes à lunch fraîches et équilibrées, parfaits pour les réunions de travail ou les gens pressés. Avec une variété de choix allant des salades fraîches aux sandwichs gourmets, nous avons tout ce qu'il faut pour satisfaire toutes les papilles et nous offrons la livraison. Nous offrons aussi le service de traiteur personnalisé. Laissez-nous faire de votre événement un festin inoubliable avec le restaurant Union Pacifique où la passion culinaire rencontre l'art de l'hospitalité. Réservez dès maintenant unionpacifique.com.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
C'est fixe. FM 93. Une radio de champions dans une ville de champions. Voici Patrick Lagacé.
15h28 minutes, samedi, je me suis réveillé, mesdames et messieurs, et là, ben, j'ai consulté encore Alain Guy dans le lit. J'ai comme commencé à consulter mes réseaux sociaux. Et là, j'ai vu l'ampleur du spectacle que j'ai raté. J'ai raté les aurores boréales vues sous nos latitudes, chose qui n'arrive à peu près jamais. Et là, je me suis dit, j'espère qu'il va en avoir samedi. Il n'y en a pas eu samedi. Madame Beauchamp a vécu la même désillusion.
Oui, moi, je dois mettre mon cadran pendant la nuit parce que la billetterie en France ouvre à 7h le matin, donc, avec le décalage horaire. Fait que si je vais avoir des billets pour des films, c'est très précis. Après ça, il n'y a plus de billets. Donc, je me suis levée vendredi soir, samedi, dimanche, vendredi à 1h du matin. J'ai même pas rien regardé. J'ai pas regardé mon téléphone, absolument rien. Puis je suis retournée me coucher. Puis le lendemain, j'ai vu les tonnes de photos magnifiques que les gens partageaient. Je me trouvais tellement
nouille
de pas avoir
regardé. Quand j'ai vu ça une fois dans ma vie.
C'est tellement beau.
J'avais été envoyé un reportage à Coudjouac et c'est absolument magnifique. Mm. T'as l'impression d'être dans un univers parallèle. C'est comme si t'avais des... je sais qu'il y a toutes sortes d'aurores boréales, mais dans mon souvenir, j'ai une photo, là, c'est comme si t'avais des ondes vertes qui dansaient, qui bougeaient comme ça sur l'horizon. C'est magnifique. Et moi, j'en veux. je dois te le dire, j'en veux aux astrophysiciens, aux astrophysiciennes québécois qui, me semble-t-il, ont pas suffisamment levé le flag.
C'était pas l'éclipse.
Non, c'était pas l'éclipse. Où était-il? On va poser la question à Marie Evenot, astrophysicienne à l'Université de Montréal, à qui on a souvent parlé dans les jours et les semaines qui ont mené à cette éclipse du Soleil. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Vous étiez où, les astrophysiciens et physiciennes, pour nous avertir?
Bien, premièrement, on était tous en conférence la semaine passée, mardi à jeudi, ensemble. Mais deuxièmement, à notre défense des tempêtes solaires de cette envergure-là, ça arrive vraiment pas souvent, premièrement. Donc, c'est pas nécessairement constamment sur notre radar. En tout cas, pas ceux qui ne s'intéressent pas précisément au soleil. Là, on en a ici au Québec, mais quand même. Et puis aussi, c'est pas tout à fait facile à prévoir. Donc, il y a